chanter. Cette parole est une semence qui promet la moisson. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme un souffle, agis comme on l'a chanté, ta parole se donne. Tu nous as donné ta parole, c'est afin de mieux te connaître. Et chaque fois que nous disons ta parole, chaque fois que nous l'écoutons, nous apprenons quelque chose de plus sur toi, avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions que l'Esprit nous anime encore à nouveau pour que nous puissions nous approprier ta parole, cette parole que nous venons d'entendre. Parle-nous tout à nouveau et à travers cette écoute, Seigneur, que toutes choses deviennent nouvelles dans nos vies. Que Christ grandisse encore davantage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous allez dire un peu à la suite, mais presque, de cette prédication que nous avons entendue, notamment au sujet de cette église d'Apocalypse, je reste dans ce livre-là, en prenant un verset dans le chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est le Seigneur qui parle dans une des sept églises dans le livre d'Apocalypse. Il s'agit de l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 20, je vous demande du Seigneur. Voici, dit Jésus, je me tiens dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sans ignorer que la priorité de l'Église, en tout cas vu d'un point de vue public, la priorité de l'Église, c'est de gagner les âmes. Et vous voyez, tout ce travail que nous sommes en train d'entreprendre, c'est l'image de l'apôtre Pierre, hein, vous voyez, c'est de ressembler davantage à Christ, de revêtir davantage Jésus-Christ. Et pour en quoi faire par la suite, bien, c'est pour prendre le filet et ensuite aller pêcher. Ensuite aller pêcher. La priorité de l'Église, c'est de gagner les âmes. Alors moi, j'ai toujours été touché par cette image justement de Jésus qui se tient à la porte de l'Église de Laodicée. Il se tient à la porte. Il est là et il frappe. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette image n'a pas été donnée à la merveilleuse église de Philadelphie, à qui le Seigneur a dit « Parce que tu as gardé ma parole. » L'église de Phila avait gardé la parole de Dieu. « Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » L'église de Philadelphie n'avait pas renié le nom de Jésus. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Non, ce n'est pas à Philadelphie que le Seigneur a donné cette merveilleuse image. Elle a été donnée à une église dont les membres, nous dit la Bible, sont tièdes, et qui, en plus, aime le compromis et ignore le Saint-Esprit, Laodicée. Mais que nous communique cette image? En tout cas, elle nous dit que les Laodicéens, avec toutes leurs erreurs, n'étaient pas loin de la vérité. Ça, c'est une chose merveilleuse. Ils n'étaient pas loin de la vérité. Il devait simplement se tourner ouvrir la porte et Jésus entrerait. Jésus ne les avait donc pas abandonnés. C'est eux qui s'étaient détournés de lui. Ainsi, par l'Esprit de Christ, il frappe à leur porte. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons élaboré un projet pour notre église, sur la base justement d'une vision que l'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur, et bien plus, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois autour de ce projet. Je vous rappelle, dans le socle est Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus qui dit, Matthieu 28, 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes allés, bien-aimés, sur cette base jusqu'à retenir deux axes, Jean-Louis l'a rappelé tout à l'heure, deux axes prioritaires que sont la formation d'un côté et l'évangélisation de l'autre. Ce n'est pas un hasard, j'ai envie de vous le dire. Nous voyons là la vague de l'esprit, comme on dit, la vague de l'esprit, le mouvement de l'esprit. Et nous pouvons dire que nous avons entendu la voix de celui qui a frappé à la porte de nos cœurs, de celui qui a frappé à la porte de notre église, et nous lui avons ouvert justement la porte. Maintenant, à partir de ce parcours de la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le Seigneur va nous nourrir par sa parole. Il va nous former par sa parole. Il va nous équiper de sorte que nous soyons affermis et aguerris pour faire ce travail de l'évangélisation, c'est-à-dire gagner des âmes. Qui est-ce que je disais tout à l'heure? La priorité de l'Église. Cela signifie que les églises qui n'ont pas ou qui ont perdu le zèle pour l'évangélisation ne sont pas loin du but. Elles peuvent toujours faire de l'évangélisation leur priorité. Et chaque fidèle, justement, chacun de nous, chaque fidèle est nécessaire pour gagner des âmes. Frères et sœurs, une église qui ne met pas le paquet pour aller à la rescousse des âmes perdues est une église elle-même perdue. La formation est importante. Elle est importante avant toute chose parce que c'est au travers d'elle que nous allons nous enraciner davantage dans la vérité, nous affermir dans la foi afin d'être armé pour le combat qui consiste à gagner les âmes, tout en sachant que nous devons apprendre à manipuler ce que la Bible appelle par l'épée de l'esprit, et donc qui est la parole de Dieu. Car il s'agit bien d'un combat. Il s'agit bien d'un combat. L'évangélisation, c'est un combat. Le problème que rencontrent de nombreuses églises, c'est qu'elles commencent par se poser la mauvaise question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou encore, qu'est-ce qui fera croître notre église? C'est vrai que c'était l'idée qu'on a eue à la base, mais ce n'est pas la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qui fera croître notre Église? Et il y a beaucoup d'églises, qui par erreur se posent cette question, enfin la question de cette manière. Qu'est-ce qui fera croître notre Église? Alors, je rappelle qu'il n'y a rien de mal à la croissance des églises. Il n'y a rien de mal à la croissance de l'Église. Il y en a beaucoup qui ont réfléchi sur cette thématique. Moi, j'ai eu l'occasion de lire un auteur qui s'appelle Peter Wagner, qui a beaucoup réfléchi sur la croissance des églises. sur un ouvrage qu'il a élaboré, qu'il avait publié dans les années passées, qui s'intitule « Christus Victor », hein, la victoire de Christ. Et d'ailleurs, il parle de l'évangélisation en termes de combat spirituel que doivent mener toutes les, églises locales. Hein. C'est vraiment « Christus Victor ». Mais c'est dans le but de gagner des âmes, dans une dynamique de la croissance des églises. Et dans des littératures récentes, nous avons quelqu'un comme Rick Warren, qui est un pasteur, qui a beaucoup théorisé aussi sur cette dynamique de la croissance des églises. D'ailleurs, l'église de Valence, dont Jean-Pierre Sivelier est un des pasteurs aussi, ils se sont beaucoup appuyés sur les publications de Rick Warren pour mettre en place pas mal de choses dans leur église. Ça peut toujours servir de ressource, justement. Donc, Dieu n'est pas contre la croissance des églises. Souvenez-vous d'ailleurs que lors de la Pentecôte, acte 2, première prédication de Paul, 3000 âmes se sont converties. Et acte 4, deuxième prédication de Paul, nous parle de 5000 âmes. Dieu n'est pas contre la croissance des églises. Mais se poser la question du genre, qu'est-ce qui fera croître notre église? C'est une erreur. Ce n'est pas la bonne question à se poser. D'ailleurs, souvenons-nous, en posant les bases de l'élaboration de notre projet d'église, nous nous sommes posé plutôt la question de savoir qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche notre église de grandir? C'était ça la question. Qu'est-ce qui empêche? Quels sont les obstacles? Quelles sont les entraves à la croissance au sein de notre église? Il existe un principe selon lequel tout ce qui est vivant grandit. Tout ce qui est vivant grandit. Vous n'avez rien à faire de vous-même. Cela est inhérent à tout organisme en bonne santé. Par exemple, je n'ai pas besoin, moi, de commander à mes 4 enfants de grandir. Non. Ils grandissent naturellement. Aussi longtemps que je supprime les obstacles de la malnutrition ou de l'insalubrité, voilà, leur croissance se fera automatiquement. Si mes enfants ne grandissent pas, c'est que quelque chose ne va pas du tout. Le manque de croissance révèle en général un problème de santé, voire une maladie. De la même manière, l'Église étant un organisme, je dis bien un organisme vivant, il est naturel pour elle de grandir, si elle est en bonne santé, évidemment. L'Église est un corps et non pas une entreprise, c'est un organisme et non pas une organisation, l'Église. Elle est vivante. Si elle ne grandit pas, effectivement, elle risque de mourir. Souvenons-nous de cette réflexion venant de Thierry Bulan, qui nous avait adressé ça lorsqu'il nous a visités dans notre église. Et si votre église venait à disparaître, est-ce qu'elle va manquer aux gens de la cité, aux gens de la ville? Oui. Elle nous avait beaucoup fait réfléchir. Lorsque le corps humain est déséquilibré, nous appelons cela une maladie, ce qui montre souvent un mal-être du corps. De même, quand le corps de Christ perd son équilibre, la maladie survient. Plusieurs de ces mots, M-A-U-X, sont illustrés, effectivement, et identifiés dans les 7 églises décrites dans le livre de l'Apocalypse. Voilà pourquoi le problème clé pour nos églises est la santé et non la croissance. Lorsqu'il y a la santé, mais la croissance va s'en suivre. Donc le problème clé, c'est la santé de nos églises, en sachant que le premier médicament de l'organisme, c'est la nourriture. En s'alimentant correctement, nous sommes sûrs que la croissance suivra tout naturellement. C'est le bien fondé, vous voyez, de cette démarche que nous initions. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'est jamais alimenté, mais on voudrait
partager les mêmes mets ensemble. On voudrait manger le même repas, apprendre les mêmes choses, être au diapason les uns avec les autres. Dieu veut que son Église grandisse. L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 19, nous dit que cela n'est possible que si, je parle de la croissance, le fait de grandir, cela n'est possible que si toutes les parties du corps sont attachées au chef, de sorte que le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens en tire l'accroissement que Dieu donne. Dieu veut la croissance de son Église. Si l'Église est véritablement en bonne santé, nous n'avons pas à nous soucier de sa croissance. Plusieurs se posent souvent la question de savoir, mais en fait, Dieu m'appelle à faire quoi exactement? Dieu m'appelle à faire quoi exactement? Autrement dit, quelle est ma destinée dans ce grand chantier qui est la construction de l'Église? Évidemment, c'est un grand chantier. Cependant, la Bible ne nous parle pas de notre destinée. La Bible ne nous parle presque jamais de notre destinée. Elle nous parle plutôt de notre prédestinée. Ne cherchons pas notre destinée. Ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que je dois faire. Ne cherchons pas notre destinée. Cherchons plutôt notre prédestinée. Une fois qu'on a trouvé la prédestinée, la destinée vient par la suite. Romains chapitre 8, verset 26 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Voilà, la prédestinée, c'est exactement quoi? Mais c'est effectivement ce qui précède la destinée. Un peu comme le préscolaire, le premier, notre prédestiné, nous le savons, c'est être semblable à l'image de Christ. Plus tu travailles à ressembler à Jésus, plus tu vas trouver ce à quoi Jésus t'a appelé, c'est-à-dire ta destinée. Dieu te révélera toujours ce à quoi il t'a appelé. Le livre d'Éphésiens, que nous aimons bien, Éphésiens au chapitre 1, nous parle aussi de prédestiner. Dans un beau passage de l'apôtre Paul à propos de l'Église, justement, au chapitre 1, il en parle au verset 5 et au verset 11. Éphésiens, frères et sœurs, c'est l'épître de la vérité de l'Église, l'épître de la vérité ecclésiastique. Quand tu rentres dans Éphésiens, tu es dans l'Église et tu regardes Dieu à partir de l'Église. Lorsque nous lisons cette épître, nous entrons dans le temple de Dieu et l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de Paul, nous transmet les révélations les plus spécifiques, les plus claires et les plus essentielles sur cette demeure de Dieu par l'Esprit qu'on appelle l'Église, le corps de Christ. Et comme la plupart des épîtres de Paul, Éphésiens se divise naturellement en deux parties principales. Vous voyez, la première partie traite effectivement de ce que l'homme croit, ce à quoi nous croyons. Et la seconde partie décrit la conduite de l'homme. Dans la mesure où c'est ce que nous croyons qui détermine notre conduite, selon le principe qui dit « la foi détermine la conduite ». La première partie composée donc des trois premiers chapitres nous instruit, Éphésiens, sur la vocation et le dessein. La vocation et le dessein de l'Église tel que Dieu la voit. Vocation et dessein de l'Église, tel que Dieu la voit. Chapitre 1, versets 9 à 10. La seconde partie composée donc des chapitres 4 à 6, justement, nous enseigne cette fois-ci sur la conduite. La conduite est le devoir de l'Église. Vocation, dessein, et cette fois-ci, conduite et devoir de l'Église, mais tel que Dieu désire que le monde la voie, que le monde voie son Église. Oui, c'est très important ce que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens au sujet de l'Église. En fait, il s'agit d'une série d'enseignements destinés à nous révéler la grandeur, je dis bien la grandeur de l'Église dans le plan de Dieu et l'importance cruciale de chaque chrétien que nous sommes aux yeux de Dieu. Bien-aimés, ne perdons jamais de vue ce que Dieu accomplit à travers nous et à travers l'Église. Le monde ne peut pas le voir, car il ne peut pas distinguer les lieux célestes d'où viennent nos bénédictions spirituelles, comme dit Paul dans Éphésiens. Le monde n'a aucune idée de ce qui peut se produire à travers vous et à travers moi, autrement dit, à travers l'Église. Mais nous, évidemment, nous savons ce que Dieu accomplit. Nous sommes le canal de sa puissance. Oui, nous sommes le canal de sa puissance. Mais est-ce que voyons-nous cette puissance se manifester à travers nous? Nous sommes aussi le canal de son amour dans le monde. Mais comment manifestons-nous cet amour au monde? Le monde se perd. Oui, le monde se perd. Alors, puisque c'est Dieu lui-même qui nous revêt de courage pour le combat, ne perdons donc pas courage. Ne perdons pas courage. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Ne perdons pas courage. Il y a une victoire à remporter, bien-aimés, et nous sommes déjà du côté des vainqueurs. Le fait d'être là, nous sommes déjà. Nous avons pris position, nous sommes déjà du côté des vainqueurs. Bien-aimés, l'Église est le seul plan, je dis bien le seul et unique plan de Dieu pour le salut des nations. Dieu n'a pas un plan B. Tout passe par l'Église pour le salut des nations. C'est à elle d'amener les nations à la seigneurie de Christ, l'Église. C'est sa vocation, selon Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Vocation qui est celle de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, je me dis souvent, mais Seigneur, les anges en matière d'évangélisation, mais vraiment lorsqu'on y réfléchit, auraient été sans doute plus efficaces que nous, les humains, les anges. Vous voyez, mais dans sa sagesse infinie, le Seigneur n'avait pas un tel plan que les anges se chargent d'évangéliser. Si Dieu avait voulu que la mission d'évangéliser revienne aux anges, vous voyez que l'Église n'aurait donc pas sa raison d'être. C'est d'ailleurs frappant de voir que l'ange qui est apparu à Corneille, je suis là dans le livre des Actes, chapitre 10, l'ange qui est apparu à Corneille, acte 10, n'avait même pas le droit ni de mentionner le nom de Jésus à Corneille, ni de lui expliquer ce que c'est que signifie le salut. Tout ce qu'il avait le droit de lui dire était: Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Voilà tout ce que l'ange avait à dire. Mais ce séraphin, ce puissant séraphin des cieux, devait se plier à la volonté du Tout-Puissant et laisser Pierre, donc un homme laisser Pierre le privilège d'évangéliser, d'annoncer le nom de Jésus-Christ à Corneille, comme pour dire qu'il plaît à Dieu d'envoyer des humains pour apporter à d'autres humains le salut. C'est ce que Dieu a fait en nous envoyant son Fils, qui s'est incarné, qui est devenu un homme, pour nous apporter le salut. Il s'est fait homme, mais pour sauver les hommes. Dieu nous a sauvés pour qu'à travers nous, d'autres hommes aussi soient sauvés. Que les nations soient sauvées, que Christ commence à régner dans les nations. Bien-aimés, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme et il pose la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Mais parce que la solution au problème des hommes se trouve auprès d'un homme. Dans tout le parcours de Joseph, Dieu était en train de l'amener à devenir la solution au problème de la famine qui allait toucher toutes les nations, dans le parcours de Joseph. Effectivement, Joseph a fini par devenir la solution de Dieu, justement, à un problème mondial. Ce n'était pas l'Égypte dont il était le premier ministre. Ce n'était pas Pharaon, mais Joseph. Et la Bible dit que de tous les pays, en tout cas, les gens venaient. Les gens venaient, de toutes les nations, les gens venaient, non pas auprès de Pharaon, non pas auprès de la nation égyptienne, mais les gens venaient auprès de Joseph pour acheter du blé, auprès de Joseph. En effet, la famine était très dure partout. Genèse 41, verset 57. Oui, Dieu cherche un homme. Que le bon Dieu fasse de nous, justement, des solutions aux problèmes de ce monde. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir puissamment par vagues dans le monde entier, comme on l'a entendu, comme au commencement, où il se mouvait, justement, au-dessus des eaux. Genèse, chapitre 1, verset 2. Notre prière doit être, notre Père, nous savons qu'aujourd'hui, tu vas faire des choses incroyables dans ce monde qui t'appartient. Nous te demandons donc de nous donner le privilège d'y participer. Oui, le privilège d'y participer. Attention, pas d'assister, mais de participer. Oui, de participer à ce que tu vas faire. Voilà ce que Dieu attend de nous. En d'autres termes, les disciples de Jésus devraient cesser de demander à Dieu, « Seigneur, bénis ce que nous faisons. » Mais c'est ce que nous faisons le plus. Nous entreprenons des choses, et « Seigneur, bénis ce que nous faisons. » Mais plutôt, notre prière devrait être, « Seigneur, aide-nous à faire ce que tu as déjà béni. » Et c'est différent. « Aide-nous à faire ce que tu as déjà béni. » Car nous sommes son ouvrage, dit Éphésiens chapitre 2, verset 10, ayant été créés pour quoi ? En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que quand Dieu a préparé, mais ça veut dire qu'il est aussi béni. Il a préparé les bonnes œuvres. Et c'est à nous tout simplement de les accomplir. Aide-nous à accomplir ce que tu as déjà béni. Oui, Dieu a déjà béni ce projet. Dieu a déjà béni notre projet. Maintenant, qu'il nous aide à faire, qu'il nous aide à l'exécuter, à l'accomplir, ce projet. Voici donc, dit Jésus, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Puisse Dieu nous bénir abondamment, frères et sœurs. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné
de passer ici, en ce lieu, dans ta présence, parmi toi, pour être instruit par toi. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons entendu, pour tout ce que nous avons échangé. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons retenu, pour tout ce que nous avons initié. Nous savons que ce projet a été déjà béni par toi. Et tu nous donnes d'entrer pleinement dans son accomplissement. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Que celui qui nous a appelés est là avec nous et c'est lui qui nous accompagne. Seigneur, dans tout ce que Joseph a connu comme péripétie, tu étais là. Tu étais là en train de forger son caractère. À quel moment on a vu Joseph se plaindre? Tu étais là en train de forger son caractère, en train de le préparer à l'élévation, en train de le préparer au ministère que tu lui avais réservé, à l'appel que tu lui avais adressé, devenir quelqu'un qui allait manifester la gloire de Christ. Oui, Seigneur, je veux que ton Église aussi manifeste ta gloire. Seigneur, merci parce que c'est ce que tu veux pour cette Église de Bagne. À travers ce que nous voulons initier, Seigneur, ce que nous initions, tu veux que ta gloire se manifeste. Tu veux que nous puissions grandir à la ressemblance et à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, bénis les différents groupes de maisons qui se sont constitués. Que ces groupes de maisons soient vraiment des lieux de vie, des lieux de bénédiction, où la vie de Christ, à travers sa parole, va prendre davantage son ampleur, va grandir davantage. Oui, Seigneur, bénis chaque groupe de maisons, bénis chaque maison qui ouvre sa porte à l'Évangile. Oui, Seigneur. Et au final, bénis chacun d'entre nous. Bénis ton Église. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous as aimés le premier. Nous l'avons entendu. Que Dieu a tant aimé le monde, ce qu'il a donné. Il a donné son Fils. Seigneur, tu nous as donné gratuitement ce salut. Et nous voulons vraiment le saisir. Nous voulons vraiment faire grandir ce salut en nous, afin que d'autres aussi en profitent. Tu nous as bénis, non pas pour nous, mais pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Puisse ton Église, ici à Aubagne, aussi soit une source de bénédiction pour cette ville d'Aubagne et pour ses alentours. Nous te rendons grâce, en tout cas pour cette journée passée ensemble. Béni sois-tu, et que toute la gloire te soit en nous. Nous remettons la suite en très simple divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.